poser la bonne question. Quand tu partages un truc ou là, quand tu essaies d'expliquer un truc, tu le fais pourquoi? Est-ce que tu veux juste être évalué en mode oui, il est super intéressant? Ou là, tu le fais justement parce que tu trouves que c'est une responsabilité ou parce que tu as envie d'avoir de l'impact sur les gens ou de semer des graines? Anna, je le fais, je me dis, c'est une responsabilité de dire les choses, d'expliquer aux gens, de les sensibiliser, de transmettre, de partager mon expérience si ça peut servir à quelqu'un. Après, libre aux gens, ben, ils en font ce qu'ils veulent. Mais Anna, pour l'instant, je l'ai occupée.
Allô, Anna هنا. مرحبا بكم في قهوة بودكاست دي زد. في الحلقة تاع اليوم تاع قهوة وقصرة هدرت مع وردية أسمر تاع إكلوزيون لو بودكاست. جو سوي فان أني ديرتها استراتيجية جديدة هاد اليامات. كاع العباد اللي نحب لي بودكاست تاعهم نجيبهم نقصر معاهم شوية نسي نتعلم منهم وميم طون نتوما راكو كتسمعوا منها تستفادوا منها تقرعجوا. Éclosion Hada, c'est un podcast francophone qui قدموه هورديا و سيليا. يجيبوا des femmes algériennes inspirantes كيما هما يقولوا ويحكوا على leur parcours, كيفاش ولاو entrepreneurs ولا artistes ولا معلمات ولا activistes ولا اللي جات. المهم يكون عندهم انجازات ويجوا يعطونا شويه العفايس باش المشاريع تاعنا يجونا ساهلين ولا نشوفوا une expérience de vie اللي احنا ما عندناش. هاد النساء اللي يجيبوهم vraiment كل وحده كيفاه دايره. ما كاش زوج كيف كيف اي سي جينيال. جو فو كونساي فيفمون تروحو تسمعوه وتبارطاجيوه مع الناس اللي بالك يعجبهم. في الديبي تاع البودكاست نكونو نضحكو شويه باسكو البخايص ما جيت نعرف نسجل حتى عمري خرجت. اشاك فوا نعرض كش واحد نتبهدل. جامي هكا سجلت ديريكت نورمال كيما العباد. تسمى على بيها نضحكو شويه ومن بعد نبداو نقصرو نورمال. جيسبر تعجبكم هاد الحلقه. Ah non, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est ma, au moins ça. Tu trouves le lien dans les Instagram, dans le podcast, ou dans Celia, ou dans Wardia, il est dans la description. Allez, bonne écoute.
Lui correctement, je ne te coupe pas, tu vois. Genre, laissez-nous au moins nous dire bonjour.
Zama, on se connaît depuis longtemps. Malfin en gussaro.
Voilà.
Hatte, aïté.
C'est bien. Ça met tout de suite l'ambiance.
Avec, j'avais l'intention de se caler comment faire des interviews. À l'âge de l'éclosion, tout ça, parce que tu as l'expérience. Mais oui. Genre, l'étape 1, problème technique. Kimchinibda.
Comment joindre mon invité?
Ah, là, c'est Oujani.
C'est rien, khlas. L'essentiel, on a réussi à se connecter, donc c'est
ouf,
cool.
Ouf. J'y croyais plus, Mziane, que souffle.
Non, t'inquiète. En plus même, Anna, j'ai rien à faire, donc ça arrive.
Malfat, ça râle comme déjà fait éclosion.
Alors non, pas bon. Anaya, j'ai jamais fait d'interview à distance. C'est Célia plutôt qui en faisait. Moi, je préfère quand j'ai l'occasion, je me déplace. J'ai rarement opté pour l'option. Par contre, ça l'a fait Anaya. J'ai enregistré un épisode. Ok, super. Le hakt le dar. Anna, généralement, ce que je fais, je n'écoute pas le jour même, mais j'aime bien écouter le début. Donc des fois, la voiture. Pendant que je me fais conduire, je mets l'écouteur direct sur le Zoom où je commence à écouter un petit peu. J'ai écouté 5 minutes, au bout de la 10e minute, le bruit. Après, je me suis dit, c'est quoi ça? En fait, sur la panique, j'ai ouvert mon ordi, j'ai inséré la carte, l'épisode rah. Comme par hasard, j'ai décidé de changer de carte mémoire. Wesh, dani. Rah, l'épisode. Rien, je crois, irrécupérable. Je l'ai donné après un collègue ou un spécialiste son. C'est même lui qui m'a aidé sur le montage de certains épisodes. Ali Wardia, irrécupérable. Ali Choufi, d'être dritte à l'interview. Et j'ai dû refaire l'interview.
Oh my god, c'est horrible. Voilà.
Donc, de l'organisation, mais je l'ai dit.
Mzia, l'épisode est rah, ben, blé, ken, khair.
Non, ça va. Ils étaient équivalents. C'est plutôt l'organisation avec l'invité qui était compliquée. Donc, comment dire à ton invité, Bli, tu as perdu l'épisode? Tu vois, finalement, au lieu de faire deux épisodes, j'ai fait deux fois le même. Donc, faire ça, c'est une frustration.
Ah oui, c'est clair.
Voilà.
Surtout les invités, tu vois, comme genre... Elles sont très occupées.
C'est ça. Bon, en fait, après Koul Wahda Kifesh, on a eu des personnalités complètement différentes, mais avec l'invité dont je parle principalement, je crois que c'était l'invité sur laquelle il ne fallait pas que ça tombe. Donc voilà. Mais bon, salamat.
Bah, super. Voilà. C'était une super expérience, j'imagine, à des éclosions.
Ah bah oui, mais clair, c'est vraiment le fait de rencontrer Haka des personnes. En fait, à chaque interview, tu ressors rechargé. Parce que bah, c'est des personnalités qui ont des... Enfin, c'est des personnalités qui sont inspirantes. Kulwahda, le parcours taha. Et puis, c'est une discussion. Donc, le fait d'être comme ça dans la découverte, bah, c'est super beau. Voilà.
Quand tu te déplaces, quand une place à bizarre, tu es là ou là, tu es le dark, tu t'attendais pas à chauffer.
L'expérience la plus bizarre... Enfin, elle n'était pas bizarre. Elle était... Comment t'expliquer ? C'était pas à cause de l'invité. C'est une heure, on est en train d'enregistrer là déjà.
Oui. Piégé.
Ok, ça va. Donc on avait, c'était l'épisode 5 si je dis pas de bêtises. C'était avec Tassadit Benaoudia. On devait se voir. On avait choisi. Enfin, Hiyal m'avait suggéré un café à Alger Centre. Qatli, c'est calme. Qatli, en plus, comment on fait ça le matin ? Ça va être sympa. Ok. Je pense que sur la route, elle m'envoie un message pour me dire que finalement, avec le café, il est en travaux. Ok, va trouver un café à Alger Centre, sachant que non, quand on enregistre un épisode, le paramètre le plus important, c'est quand même le calme. Tu peux pas enregistrer, tu vois, c'est pas un micro-trottoir.
Ah, c'est clair.
Bon, on n'avait pas le choix, surtout qu'elle avait un rendez-vous après, donc je pouvais pas la faire attendre ou décaler le rendez-vous. On s'est retrouvé pour le café, je pense que c'était café ou la resto, en face de la grande poste. la vaisselle, les serveurs, les aïtons. En plus, on s'est mis en mezzanine. À un moment, j'ai la demoiselle, s'il vous plaît, voilà, on est en train d'enregistrer. Bon, je sais que c'est leur boulot, je ne peux pas me permettre d'arrêter l'activité d'un resto. Hey. Mais il y a une différence entre t'hat kes ou t'armi kes. Il y avait des bruits de vaisselle, il y avait un écho de dingue. D'ailleurs, c'est l'épisode où le son n'a pas été au rendez-vous. Mzia, les gens ont écouté pour Tessadit. Mais c'était très compliqué, c'était très frustrant parce que voilà, c'était pas calme et c'était pas du tout les conditions idéales.
J'imagine que tu es un serveur.
Et en plus, c'est qu'à un moment donné, tu es concentré sur l'invité parce que si elle dit quelque chose d'intéressant, tu dois rebondir. Et en même temps, tu es concentré sur le bruit parce que s'il y a un gros bruit, tu préfères dire à l'invité le temps que ça passe et on reprend. Donc, mais bon, Mzia s'est tombée sur Tassadit Benaoudia parce que voilà, c'est quelqu'un de très patient et tout ça. Donc, on l'a quand même fait, mais voilà, c'était, on va dire, c'était le lieu le plus bizarre, non, mais là où ça s'est le plus...
Ah si, c'est une expérience assez bizarre.
Ah oui, oui.
Enregistrer vraiment... un podcast en face de la grande poste, le Kahwa, je pense pas qu'il y ait des mille et des cents qui ont fait ça avant toi.
Grave. Et puis, tu sais... C'était le cinquième épisode, donc on n'était pas, enfin personnellement, j'étais pas rodée encore avec l'appareil parce que, en fait, quand tu as des micros, il y a toujours des options pour réduire le bruit, capter le son le plus proche de l'invité et tout ça, mais on n'était pas, enfin j'étais pas encore au point. Mais à ce moment-là, il y avait vraiment trop de bruit. Je pense que même si j'avais les meilleurs, enfin même si j'étais dans les meilleures conditions, ça t'échappe en fait.
Donc c'est devenu une belle histoire.
Oui, bon, ça, voilà, ça nous fait des choses à raconter.
Voilà, mleha. Et avant éclosion, tu as déjà des interviews avec des autres ou l'update genre
On s'est lancé en 2019. Bon, moi j'avais eu l'occasion de modérer des événements. Donc si tu veux le travail de questions, je l'ai déjà fait, mais pas sous le format audio et pas avec un seul invité sur une heure. Donc, mais j'étais habituée à l'exercice du micro, présentation d'invités et échange puisque voilà, avec la force des choses, je suis devenue modératrice. Donc disons que c'était pas un exercice inconnu. Et en plus, ce qui m'a aidé aussi, c'est mon expérience à la radio. Parce qu'en 2012, j'en avais fait. Et donc, t'as certains réflexes que tu adoptes à ce moment-là qui reviennent sur le podcast. Parce que le podcast, c'est un peu... Enfin, c'est comme de la radio. T'as un micro, y a pas d'image, t'es avec un invité, tu dois gérer. Mais c'est aussi à force de s'écouter, parce que quand tu fais le montage de ton épisode, quand tu réécoutes l'épisode, tu captes ce que tu fais bien et ce que tu fais pas bien. Par exemple, Anna, j'avais un défaut, c'est que je gardais le micro près de ma bouche, et pendant que la personne me parlait, je faisais... Mm-hmm, mm. Je faisais des petits bruits haka là parce que j'étais à fond dans la conversation. Mais en fait, hadouk, les petits onomatopées que tu lâches pendant le truc, c'est désagréable à l'oreille. Du moins, moi, je le perçois comme ça, donc je préfère éviter. Donc, quand la personne, je lui pose la question, j'éloigne mon micro pour avoir vraiment le silence de mon côté. Et après, quand j'ai besoin de rebondir, je reprends le micro et je le rapproche de moi. Mais sinon, j'évite de faire des bruits de bouche, on va dire.
Oui, c'est vrai. J'ai remarqué la même chose, Anna. Surtout, qui ne te connaît pas, off, tu veux vraiment encourager les gens. Tu dis oui, vas-y, zid.
Voilà, c'est ça, exactement. Et après, c'est à l'écoute que tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir. Après, forcément, ça ne dérange pas forcément les gens. Mais je pense que quand on est dans une une autocritique, voilà, ça
je trouve que ça se remarque.
Sur certains épisodes, peut-être plus que d'autres. Mais après, franchement. Avec du recul, là, on est quand même à une trentaine d'épisodes, c'est énorme. Il y a eu une nette amélioration par rapport à ce que c'était au début, mais elle, on va s'améliorer, Inch'Allah.
Ouais, c'est de grande qualité, Anna. Très laonné.
Surtout, merci beaucoup.
J'avais pas apprécié autant, Chahal, c'est difficile. Hattan, dès qu'on a des interviews, on va être, mais merci, c'est pas évident, il y a une main.
Justement, tu sais, d'ailleurs, j'essaye souvent de sensibiliser les gens à ça, parce que le public, l'auditoire, va avoir un produit brut. Et ils se disent, ah, c'est génial, je crois que c'était très spontané. Oui, c'est spontané, on fait en sorte que ça le soit. Sauf qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont. Une fois que tu as sélectionné l'invité, tu dois te renseigner sur l'invité, parce que tu dois bien connaître son parcours pour poser les bonnes questions. Tu dois préparer noir sur blanc les questions à Hadouk, être sûr que c'est les bonnes, que tu as le fil conducteur qu'il faut, etc. Ensuite, tu dois enregistrer la personne. Donc déjà, tu dois caler un rendez-vous et ça, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il faut réussir à synchroniser les plannings. Surtout qu'avant, moi, je travaillais en agence. Donc, je ne pouvais pas dire à une personne, « On enregistre à 15h » ou là, je n'étais pas libre de mes mouvements. Et Célia, c'est la même chose. On travaillait du matin jusqu'au soir. Donc, les podcasts se faisaient soit le week-end, soit en fin de journée ou en jour férié ou que sais-je. Et ensuite, une fois que tu as enregistré, il faut réécouter l'épisode. Donc, alors, ce qui est cool, c'est qu'on arrive quand même avec Célia à les faire d'une traite. Donc, on n'a jamais, en vrai, les épisodes que tous les auditeurs écoutent, c'est des épisodes quasiment bruts. On n'a jamais coupé, j'ai coupé 10 minutes parce que ce qu'elle disait, ça servait à rien ou là, que ça tombait mal ou là. Des fois, ce qu'on fait, on nettoie certaines pistes parce que des fois, par exemple, Anna, je vais avoir la langue qui fourche, donc je repose la question. Avec le moment, je l'enlève. C'est vraiment des petits trucs, mais globalement, sur sur le contenu, le fond, on n'a jamais coupé.
Zed, c'est mon admiration. Je m'attendais c'est de l'eau pendant 3 heures, puis je dois être qu'il 1 heure.
Non. Et quand on termine, généralement l'épisode, c'est-à-dire une fois que tu l'as fini sur l'appareil brut, tu as un timing. Quand on a explosé le compteur, on a 1h30. Mais après, c'est l'épisode de lui-même, il est exploitable. Il n'y a pas Ziyada ou Norsan.
C'est magnifique.
Voilà, donc on essaye super. Ça. Et après, derrière, une fois que tu as fini le montage, le traitement, parce qu'après, il faut écrire Hadik l'introduction, vu qu'on l'a fait selon chaque invité. Donc, finaliser le montage et puis préparer la communication. Parce que derrière, on annonce l'invité, on essaye de maintenir, c'est-à-dire de rendre visible l'épisode. Voilà. Et après, il faut répondre aux gens quand ils t'écrivent sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça.
C'est un travail à plein temps, Vlharera.
Ah oui.
Je l'aide.
Ah oui, c'est... D'ailleurs, je l'ai souvent dit aux abonnés qui nous écrivent soit sur Éclosion ou là qui m'écrivent sur mon compte, avec Célia, c'est un projet qui nous tient à cœur, mais il ne faut pas oublier le tannik, on le fait bénévolement. Et on ne veut pas perdre le côté hadak passionné. Si Éclosion commence à devenir une contrainte pour nous, on ne va pas le faire aussi bien qu'on le fait jusqu'ici, en toute modestie. Donc, à un moment donné... Il y a eu, Anna, par exemple, j'ai démissionné en août. Je me suis lancée à mon compte. Donc, de août à maintenant, j'étais en pleine démarche administrative. J'avais pas mal de choses à faire. Et encore, on a réussi à caser un rendez-vous en fin d'année. Donc, j'ai pu quand même faire un épisode. Mais après, voilà, il y a aussi ma vie pro à moi, c'est-à-dire celle avec laquelle je gagne ma vie. Et Célia, pareil. Donc voilà, c'est une pause qui s'est vraiment imposée, mais Inch'Allah, on revient bientôt.
Je pense que c'était intelligent de mettre ça en saison, comme ça qu'il y a des normal. Genre, c'est
oui,
pas
oui,
chaud, quoi.
Khalas,
la saison, exactement. Khalas, t'as déjà la saison de Jaya.
Exactement, c'est tout à fait ça. Mais voilà, j'espère vraiment que là, on va reprendre...
comme la pression, yallah.
Oui, oui, on reçoit beaucoup de messages. Bon, ça nous touche parce qu'on se dit, bah, c'est cool, les gens ont remarqué l'absence de notre contenu et ça veut dire que notre contenu plaît et ça, c'est génial, c'est super flatteur. D'ailleurs, hier, symphonie littéraire Ousmo sur Instagram, Faisal, il a un contenu, il partage ses lectures, etc. Il travaille sur une thèse d'ailleurs sur la littérature. Ali, tu sais que je fais écouter vos podcasts à mes étudiants et on discute autour. Et c'est génial.
Bien, ça
c'est
fait
juste,
plaisir.
Voilà, ça m'a vraiment flatté. Ali, je leur sélectionne un épisode, une partie. Je leur fais écouter et puis on en discute et ils lancent des débats là-dessus. Donc voilà, je me dis, bah, c'est cool. En plus, le contenu sert de référence de cours.
En tout cas, Nakin Choufa, même si vous arrêtez Doka, Rakoum Deto, Chal 30, 35 heures de contenu excellent. Les Ramikarawa, c'est ma norme.
Voilà, ils ont encore le temps.
L'impression, Marahé, Mashkatia, bzaf.
On va essayer de faire 35 autres épisodes.
Inch'Allah, quel jour.
Inch'Allah.
Côté, tu étais modératrice avant. Ça veut dire quoi? Je peux te dire.
Non, enfin, je le suis toujours. Au contraire, c'est maintenant que je le suis véritablement. Ah. Alors, un modérateur, c'est une personne qui anime des conférences ou des tables rondes. C'est-à-dire que c'est la personne qui va être là pour poser les questions, créer l'interaction avec le public, gérer le débat, etc. En fait, un modérateur, c'est à mi-chemin entre le journaliste et l'animateur. C'est-à-dire que d'un côté, il doit poser les bonnes questions. Et d'un autre, justement, il doit savoir animer, rebondir s'il y a un couac, s'il y a un blanc, essayer de le remplir, pouvoir donner la parole équitablement, que ce soit au public et aux intervenants. Donc voilà, c'est vraiment un rôle différent parce qu'on voit beaucoup de journalistes et d'animateurs animer des événements, mais le modérateur, c'est vraiment une autre position. Et justement, c'est quelque chose que je tiens à travers moi, mes prestations, à valoriser. Et en fait, c'est arrivé vraiment par hasard parce que... Donc, je te disais, ma première, on va dire, véritable rencontre avec le micro, elle s'est faite en 2012, quand j'ai fait de la radio. J'avais participé à un concours de la radio algérienne à la chaîne 3. Je l'avais remporté.
Ah, quelle ousma avec l'émission.
Le laboratoire. Le laboratoire de la 3.
Ah, c'était bien. Voilà. J'ai tenu la nostalgie.
Oui,
j'avais des avec... amis tannés qui nous participaient.
Oui, il y a beaucoup de... Ben, en fait, c'est... C'était à l'époque, c'était donc Yazid Ait Hamadou Salah Rahmou qui gérait. Et on a vu plein de talents passer que les gens connaissent aujourd'hui. Donc, que ce soit des slameurs, des chanteurs, etc.
C'était vraiment spécial, d'accord.
Ah oui, oui. Je pense que c'est l'époque où on entendait beaucoup de jeunes à la radio algérienne. Et ça, c'était cool. Donc, la première rencontre, elle s'est faite là. Bien sûr, on a beaucoup gardé contact avec Ousmo, avec Yazid Laïa Rahmou. Bah, il m'invitait tout le temps. Dès que je pouvais y aller, j'y allais. Sachant qu'entre-temps, on a rajouté en France pour mes études. Mais après, quand je suis revenue, j'ai fait une dizaine de chroniques dans Serial Tagger. Donc voilà, j'avais un petit peu ce côté enfilé, cette casquette de chroniqueuse. Et puis, entre-temps qu'il y a rajouté en France, j'avais animé trois fois un salon. C'était le salon des cadres algériens à Paris. Donc déjà, je ne faisais pas encore véritablement le rôle de modérateur. Enfin, si, un peu. Mais j'étais plus dans l'animation parce que je les invitais. Ils faisaient des talks. Donc, j'avais juste à les présenter. Je devais interagir avec le public, etc. Et après, je le fais tellement passionnément que je ne sais pas à quel moment exactement j'ai pris le rôle Hada de modérateur. Mais je sais qu'une fois, j'avais modéré une rencontre avec Campus France. Ils avaient invité Haka des gens qui étaient partis à l'étranger, qui étaient revenus en Algérie. Et c'est parti de là. On a eu une table ronde, on a amené une autre. J'ai construit, j'ai toujours encouragé les gens à entretenir le réseau et moi je l'ai fait depuis très longtemps. Donc de fil en aiguille, je le faisais entre guillemets, de manière passionnée. Tu vois, pour moi c'était pas khadma, c'était du boulot parce que c'est la même chose que pour les podcasts. Tu dois bûcher ton sujet, préparer les invités, être sûr de poser les bonnes questions. petit à petit, j'ai fait un événement, on amène un autre. J'ai animé des visios, je me suis retrouvée dans un salon pharma. Je travaille beaucoup avec l'Institut français. Petit à petit, je me suis dit, OK, là, j'ai une position de modératrice, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc, en me lançant maintenant à mon compte, ça va faire partie des services que je vais proposer.
Je pense que c'est une leçon importante, les jeunes lismaouna. Tu peux pas toujours prédire on va être خلاص l'hikaya, mais tu bdaï lancer ou خلاص.
Exactement.
Tu as été lancé, tu as fait émission Index, c'était quelques minutes. Serial Tagger ou là, c'était pas des heures et des heures, mais tu t'es parlé avec des personnalités grandes. C'était pas des conférences internationales, tu t'es parlé ou خلاص, la musique.
Et c'est là justement que tu comprends et que c'est une parfaite illustration de la formule la passion est un moteur. Moi mon moteur jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été la passion. Maintenant, je ne peux pas concevoir ndir afsa ma nhabhach. Je peux pas. C'est incroyable, mais je te dis pas que khlas tous les boulots sont agréables, tout ce qu'on fait dans la vie passionnément, ça même fait chez les contraintes, il y a des contraintes partout. C'est juste que j'ai laissé ma passion, j'ai donné sa part à ma passion, et surtout j'ai construit une stratégie dans ma tête, parce que moi j'ai fait des études en management, j'ai aucun diplôme en communication. Sachant Tani qu'avant j'étais hyper timide, donc à aucun moment je me suis imaginé un jour animer des événements, avoir 400 personnes ou la passer à la radio, prendre la parole aussi facilement et tout. Mais c'est un travail, et dans ma tête je me disais, parce que Bekri, j'admirais déjà les journalistes qui passaient à la télé et tout, mais à aucun moment je me suis dit je rêve d'être journaliste. C'est juste qu'à un moment où je me disais ça serait l'idéal si j'avais un boulot où je pouvais allier management et communication. Petit à petit, mais c'est vraiment une stratégie. C'est ce que les gens, il faut qu'ils comprennent. Rien ne te tombe dessus, haka. Ouais, personne ne va venir te prendre la main un matin et te dire, viens, ta réussite, ton succès ou là, ton bonheur, il est par là. Non, il faut se fixer des objectifs. Et comme il y a une expression que j'utilise souvent qui est de moi, les objectifs, ça se fixe sur le papier, mais ça se fixe surtout des yeux. Une fois que tu as fait, l'objectif, il devient comme une rengaine dans ton esprit. Même si tu n'y penses pas à 100%, parce que tu as d'autres choses à penser dans ta journée, mais tu sais que l'objectif, il est dans ta tête. Tu as épinglé sur un tableau. Et petit à petit, tu bosses. Après, c'est le travail. C'est la constance dans ton travail et les efforts que tu fais pour atteindre ces objectifs. Mais clairement, pour moi, la passion est un moteur. Et la preuve, c'est ma passion qui m'a amené à la position que j'occupe aujourd'hui. J'aurais jamais cru un jour travailler dans une agence de communication. Mais il faut déterminer.
Quelque chose qui me fait plaisir, qui m'a un alfouahed qui est dans un truc qu'il aime.
C'est super important. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, parce que bon, des fois, je sais qu'il y a surtout les réseaux sociaux qui véhiculent certains messages. Il y a eu des moments dans ma carrière où je me suis sentie fatiguée. Il y a eu des moments dans ma carrière où j'ai été stressée, etc. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est que du bonheur, parce que ça a été de la fatigue positive, ça a été constructif pour moi.
Tu as eu des moments de doute. D'un côté, j'aurais dû continuer le travail normal.
Bizarrement, tu vois, maintenant qu'on m'a jamais posé cette question, des moments de doute. Non, en fait, je pense que mes moments de doute, je les ai plus eus avant ma carrière professionnelle que pendant la carrière professionnelle. Parce que justement, le fait de laisser place à ma passion et d'être sur le chemin que je voulais, il n'y a pas de doute vu que je me sentais à ma place, tu vois. Je réfléchis, mais non, en fait,
j'ai... Ça fait plaisir. T'es pas obligée, c'est bien. C'est super.
Non, mais si, mais j'essaye de penser à quand même à des moments de doute. Oui, enfin, des moments de doute minimi, kono. Parce que tu dis, est-ce que c'est le bon job? Est-ce que je vais rester là pendant longtemps? Est-ce que je vais faire 10 ans dans cette boîte? Est-ce que je vais rester 3 ans et tout? Hado, c'est des trucs normaux dans une carrière. Mais de manière générale, non. Franchement, parce que encore une fois, mes objectifs étaient clairs, faire assez.
Quel était l'objectif bénéinique? عندك des techniques هكذا باش تفكري روحك ولا c'est juste faire راسك تفكري روحك.
Alors, en fait, il y a deux choses. tu sais, en développement personnel, alors, comment, je vais essayer de traiter plusieurs points fait de la réponse. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle justement beaucoup de développement personnel. Il y a des coachs partout, des livres, tout ça, tout ça. Alors, je pars du principe, déjà, c'est Ismaïla Moussama. Il y a un développement ou un personnel. Personnel, ça veut dire que ça nous appartient à nous. Donc, Anna, j'ai mon développement personnel, Esma a son développement personnel, Flan il a son développement personnel, ainsi de suite. Donc déjà, je pense qu'il faut qu'on arrive à se détacher des routines des autres. Parce que souvent, on lit des conseils, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les prendre. Mais au chenou, il faut pas oublier que chaque personne est unique, chaque personne a sa routine, chaque personne a son mindset, chaque personne a sa personnalité. Voilà, je cite l'exemple du développement personnel parce qu'il y a un élément du développement personnel dont on parle, c'est la visualisation. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, Zama, tu veux avoir une voiture, tu veux avoir une maison, tu veux avoir un job et tout ça. Tu essayes de visualiser la situation, ou là, tu fais un tableau de visualisation. Je ne sais pas, si tu as envie d'acheter une belle voiture, tu prends la photo et tu l'épingles dans un tableau. La première chose que tu vois, c'est la voiture. Pour habituer ton cerveau à voir avec l'objectif et qui s'ancre dans ta tête. Et bien, figure-toi qu'avec le temps, parce que c'est-à-dire que forcément, dans ton parcours, tu évolues, tu observes, tu compares à ce que tu étais avant, tu vois ce dont tu rêvais avant, où il est. Je me suis rendu compte qu'au final, la visualisation, je l'ai pratiquée depuis toujours. Ouchnou, je ne l'appelais pas la visualisation. Parce qu'Anna, j'étais et je suis toujours une très grande rêveuse. Anna, capable de rêver. Les étoiles ou là je sais n'importe où. J'ai aucun problème à la solitude où je rêve. Quand je dis je rêve, je suis dans mon imagination. Et justement quand j'étais petite, j'imaginais des choses dans ma tête, le fait de devenir une femme qui soit à l'aise en société, qui soit appréciée par les gens, qui puisse transmettre des choses. J'imaginais la femme que je voulais être. Et justement, ça me ramène à une expression que j'aime beaucoup de Diane Furstenberg qui dit « Je ne savais pas quel métier je voulais faire, mais je savais parfaitement quelle femme je voulais devenir. » Et donc, au final, les objectifs t'aillent. Alors, je vais pas te dire à 10 ans, j'avais les objectifs l'indélium, tu vois, je peux pas te dire ça. Mm-hmm. Mais j'avais un objectif global de la personne que je voulais devenir, ce qui fait qu'au fur et à mesure, je nourrissais avec l'imaginaire et avec le rêve. Et justement, c'est là que ça commençait à s'éclairer. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on te dit souvent, tu as un objectif, ou bien tu fais des sous-objectifs. Donc, c'est ce qui m'est arrivé pendant mon parcours, dans mon choix d'études, dans mon choix de faire une stratégie pour entrer dans le monde de la communication, petit à petit. Donc, au final, ça, j'ai envie de dire aux gens, rêver. J'ai pas envie de leur dire visualiser, mais voilà, visualiser la personne que vous voulez devenir. Faites-vous un schéma clair de ce que vous voulez faire de votre vie. Quel métier, si idéalement, quel métier vous aimeriez faire? À quoi vous aimeriez que votre quotidien ressemble? Quels sont vos centres d'intérêt? Après, vient l'étape du noir sur blanc. Les gens, je leur dis, c'est comme une to-do list ou là une liste de courses. Qui est le supermarché. Tu sais que tu dois acheter 15 000 choses. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu prends? Tu fais des warqa ou tu fais une liste? Parce que, à la belle, et tout est écrit noir sur blanc. C'est la même chose pour les objectifs. Il faut les noter noir sur blanc. Et en fait, le fait de les sortir de ta tête, ça les matérialise, ça les rend concrets déjà. Alors que quitte pas d'être mais cache un harinder, j'aimerais bien faire. Et avec des si, on mettrait Paris en bouteille, tu vois. Donc réfléchissez bien, je crois, définissez des objectifs clairs. Mais si cache un harinder, je veux faire ça. Donc à un moment donné, à partir du moment où tu comment dire, ancres avec l'objectif faire, c'est que ça veut dire que le travail il a déjà commencé. Et on bade. À force de tenir à ses objectifs, parce que justement, il faut mettre de la passion dans ses objectifs. Tu le veux chouïa ou là, tu le veux vraiment? Et après, il faut bosser. Je suis partisane du « on n'a rien sans rien ». Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent « عندها زهر », tu vois. Mais « عندش زهر ». « زهر تاعي », c'est que je suis une bosseuse, je suis déterminée. Et après, j'avoue, je suis née dans un environnement, alhamdoulilah, qui est propice à mon épanouissement. J'ai mes parents qui m'ont toujours encouragée. C'est peut-être ça ma chance. Mais derrière, mes parents, ils n'ont jamais bossé à ma place.
Nous adoufent des environnements propices au Médal Ouallou.
Voilà. Alors que tu as des gens, les adoufent des environnements où ils m'aident au Ouallou, où même leurs parents ne les encourageaient même pas, ils ont réussi. Donc, c'est, y a pas de privilège dans la réussite, c'est ton travail qui détermine ta réussite.
Quand tu es derrière une liste les objectifs où tu es rêveuse ou gars, quand est-ce que tu es au lycée, que tu es rêveuse, que tu te fais une taga, cherche ta arabe, le gars est adoré là.
Eh ben, je vais te faire rire. Je vais te faire rire. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé au collège. Au collège, donc on avait des cours de maths. Ou Anna, les maths, la physique, tout ça, c'était ma hantise. Je pense que si avec du recul, je sors look and Anna ou la réellement le lycée. Tellement pour moi, c'était. Je me rendais pas compte à quel point c'était une contrainte. Mais c'est maintenant que je suis devenue une adulte que j'observe l'enfant que j'étais et que j'essaye de m'analyser. Bah, je n'arrive qu'il fait je compte.
C'était d'un Anna, ennui.
Anna, j'étais du genre, donc on a oublié de vous lire l'anecdote. J'étais du genre à prendre un livre de contes ou de la lecture, à mettre le livre dans mon cahier. Bah, mes parents, ils pensent que je suis en train de réviser alors qu'Anna, elle est une caractère. Pour te dire le niveau, la meuf qui n'en a rien à. Mais si, c'est pas que j'en avais rien à cirer des études. Bien sûr, je voulais avoir de bonnes notes et tout. Mais les maths, la physique et tout, en français, anglais, tout ça, ça, c'était parfait. J'ai toujours eu, si tu veux, une fibre plus ou moins littéraire. Bref, en classe, donc en cours de maths, je me souviens, Nres, mais je m'en rends. Vraiment, je regarde la prof, je regarde le tableau, enfin, je zamaranin tabba. Mais à un moment donné, je ne sais pas où, mais il et y avait des moments où, donc en arabe, la prof te dit, isnani ous ous haja. Ou un homme, c'est ousmer, mon nom. Donc, ousmer, tu vois, je sursaute. Ça, c'est un souvenir que j'ai gardé, ça me fait rire parce que je me rendais compte à quel point, même en classe, j'étais dissipée. Enfin, pas dissipée, non, mais voilà, rêveuse. Et lycée non, je pense que non, on m'a jamais taxé de rêveuse.
Ma femme Oleg, t'as d'autres référents.
Anna, j'ai toujours eu l'image de la fille hyper sérieuse jusqu'à aujourd'hui. Même qui ne me chie, qui te chie, tu te bannes hyper sérieuse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Ne me chie ou notre hack, manes ou là. Enfin, je souris, mais je vais pas rire haka sans raison. Mais en fait, Anna, mon évolution, elle s'est véritablement faite avec le bac. Alors, il faut savoir que les années bac, je dis bien les années bac et tu vas comprendre pourquoi, ont été, j'ai pas envie de dire les pires, mais ça a été une période très difficile pour moi. Tout simplement parce que j'ai passé mon bac la première fois en 2006. Les gens, à l'annonce des résultats, quand ils ont dit, ils ont dit, et tout, et je leur disais, en fait, non, mon nom n'est pas sur la liste, j'ai pas eu mon bac. Genre les gens venaient me voir parce que pour eux j'étais
ils étaient sur les Jupiter.
Voilà. J'étais pas la première de la wilaya ou là j'étais une bonne élève. Voilà, j'étais appréciée de mes professeurs, j'avais mes notes, alhamdoulillah, j'avançais bien. OK, sachant que Anna, j'avais déjà de l'avance sur ma génération parce que la Kabylie a connu une année blanche, Anna, j'ai sauté de classe grâce à ma mère les qaratna fi dar. Donc j'avais de l'avance. Mais allez, je me suis dit je suis née la première.
Pardon. Oui, قراتكم في الدار كاين هوم سكولين في الجزائر كومون سا سي باسي كاين هوم سكولين في الجزائر
c'était écoute c'était dans les années alors moi je suis née en 89 je sais pas ça devait être dans les années enfin c'était dans les années 90 92 je sais plus en quelle année c'était exactement bon Anna il y avait pas trop d'enjeux j'étais sana oula mais il fallait quand même voilà mais mon frère était en deuxième année je pense ou là en troisième et en troisième année je pense. Donc, il y a eu l'année blanche. L'année blanche a fait que, c'est-à-dire que ça a bloqué toute la Kabylie et les études carrément se sont arrêtées. C'est-à-dire qu'il y a des gens de ma génération et de la génération de mon frère qui ont perdu une année de scolarité. C'est-à-dire que, voilà. Ensuite, ma mère elle est professeure, mais il y a professeure de comptabilité, maths financières et en plus francophone. Donc, non seulement elle a dû se taper l'arabe, c'est-à-dire que le maîtriser, et faire le boulot à la maison. Donc elle a fait en sorte de nous faire suivre le programme FDAR et c'est de bien. Nous suivre à la maison. Ouais. Et après on a dû changer d'école parce que la première école les Kounafeha, comme c'était dans un petit village et tout, c'était pas possible de nous faire sauter de classe de peur de faire passer ça pour du piston parce que la directrice connaissait mes parents, blabla. Enfin les petits villages, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on a été dans une école en ville. Bon, j'ai pas trop de souvenirs, mais je pense que Djouzoun a un test et ils avaient vu qu'on avait le niveau, donc on a sauté en classe supérieure. Ce qui fait que l'année terri, je l'ai pas perdue et mon frère non plus.
Yeah, c'est une expérience vraiment spéciale à d'être à la Sana Oulaf Dar.
Ah oui, grave.
Je fais que tu es à la Sana Tania, c'était ta première année d'école.
Oui, oui, je me rappelle de l'école. Je me rappelle de ma première année à l'école à Tizi. Alors, ben, le truc, c'est que quand t'es gamin, il y a des choses que tu ne mesures pas. Voilà, parce que tu dis une année, bon, ma mère... Je crois que les choses viennent naturellement. Mais au final, je me dis que les gens qui étaient dans ma classe, l'année qui a été, je crois que je ne tu vois.
Je suis pas au
Eh, c'est ça. Mais je n'ai pas un véritable sentiment ou un véritable souvenir par rapport à ça. Non, je ne saurais pas te...
T'étais trop jeune.
Voilà, je fais oui.
Je fais un face voilà. Bizarre, genre un détail m'sah, un détail t'as
exact. Par exemple, ben, ce dont je me souviens et ce qui m'a marqué le primaire, c'est qu'il y avait des moments où mes parents... enfin, surtout quand c'était ma mère qui devait venir nous chercher, il y avait des moments où, un an, je finissais avant mon frère. On était dans la même école. Oui, il était en classe supérieure. Donc, des fois, au lieu d'aller chez ma grand-mère ou là, je restais à l'école. Où je, nous, qu'est-ce que je faisais ? Quand il y avait cours de français de mon frère, j'allais dans leur classe.
Yeah.
Et du coup, Psahana, et en fait, je rigole maintenant parce que ça, quand je te dis que j'étais très timide, m'étonne. Et la prof de français, elle dit qu'elle m'avait pris sous son aile. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, qui ne t'a pas et tout, on l'adore.
C'est mignon.
Et en fait, je répondais. C'est-à-dire qu'Anna, la petite deuxième année, elle donnait des réponses à des quatrième ou la cinquième année à l'époque. Et elle me citait en exemple, en leur disant, ben, je suis très allé comme ou t'as fait comme, tu vois. Donc, il y avait des petits hackers.
C'était...
Non, non, ils étaient bienveillants. Et puis, il y avait mon frère dans la classe. Voilà.
C'est mignon.
Ça c'est un des souvenirs phares de ma scolarité.
Je pense que les cheveux étaient à l'air parce que c'était une grande émotion. Wahda, voilà, timide.
Voilà. Il y avait ça et le truc, mais de ma scolarité, du primaire. Et le deuxième truc, je crois que j'ai eu, quand j'ai eu la sixième, je pense que j'étais classée la première. En fait, l'école Terna, il y avait deux cours. Il y avait, je crois, il y avait école 1 Mena, école 2 Mena, mais c'était le même nom. Et j'avais été classée, il me semble, en sixième année, j'avais été classée sur toute l'école, en première. En sixième. Donc tu dis, oh là là, bon, il y a sixième année en vrai, mais Kanwello. Ça, c'était une fierté à l'époque, tu dis.
Mais Kanwello, voilà, quand t'es une adulte, mais qui te connaît sixième année, voilà. Ça veut tout dire.
C'était les petites victoires de l'époque.
Ouais. Je fêtais kiffash, rahet lek chouya la timidité. Et soupçonné bzaf nas ala social anxiety, ala la timidité.
Eh ben, justement. C'est pour ça que j'ai entamé le truc, les années bac, parce qu'en fait, le déclic s'est fait à ce moment-là. Donc, j'ai pas eu mon bac en 2006, je le repasse en 2007. Grosse surprise cette année, je l'obtiens pas non plus. Ah. Hadak nahar, il a fallu que mon père me donne un somnifère bach nerqod. Parce que, khlas, au bout d'un moment, ok, une année, je suis jeune, je peux le refaire et tout. Deuxième année, tu vois tout le monde te passer devant. Toi, t'as bossé comme une dingue. Tu dis, c'est pas possible. À un moment donné, je me dis, mes copies tombaient entre des correcteurs qui ne faisaient pas leur job ou là, qui n'évaluaient pas bien ma copie. Je comprenais pas parce que c'est vrai, t'es là, t'as pas de retour clair sur ce qui n'a pas fonctionné.
Ah, avec la note, khlas.
Voilà. Va savoir, d'ailleurs même mes parents par la suite, ils étaient, mais j'ai surpris. Je me suis découvert, j'ai commencé à me découvrir une détermination à partir de ce moment-là. Parce qu'au final, j'aurais pu faire comme beaucoup de monde, m'arrêter, m'inscrire en école professionnelle ou la malabaliche. Mais maintenant, je tenais vraiment à passer le cap du carrefour du bac. Parce que voilà, pour moi, l'université, il fallait absolument que je la fasse. Donc je le passe une troisième fois, donc 2008, alhamdoulilah, je l'obtiens. Et en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que 2006, j'ai participé à mon premier festival. Et il y avait un atelier d'écriture à ce moment-là. On a participé à un atelier d'écriture. J'avais 18 ans, je pense, ou un peu moins, je ne sais plus. Et là, j'ai commencé à comprendre que l'écriture que j'adorais depuis longtemps, parce que même qui compte au collège, pour moi, c'était la course pour l'expression écrite. Il fallait que j'écrive, il fallait que j'ai mon 5,5 sur 6, parce que Bekaris, c'était ça, tu ne pouvais pas avoir le 6 sur 6. Et c'est à ce moment-là, au cours de ce festival, je me suis rendu compte que ça, je savais manier les mots et que c'était une passion, que c'était pas juste un talent haka bork, que ça me faisait du bien d'écrire, que voilà. Et en fait, ma timidité me servait, voilà, parce que j'ai un... le fait d'être timide, ma tahdarej, mais t'halli aïnik bzaf, ou t'halli oudinik bzaf. Donc tu es tu développes un sens de l'observation, un sens de l'écoute qui est très, très particulier. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à découvrir mes passions. Donc de 2006 à 2012, de 2006 à 2012, je faisais chaque année le festival. Donc
Le festival à Dachau.
Racontard. Racontard, oui, je m'en souviens parce que pour moi, ça a été jusqu'ici un des plus beaux festivals qu'a connu l'Algérie parce que c'est un festival indépendant, c'est un festival où il y a vraiment un métissage. Voilà. Et en plus, on va dans des petits villages de Kabylie. Donc pendant une semaine, le village est Bentel. Et tu vas chez l'habitant et tout ça, c'est vraiment formidable comme festival. En 2012, donc il y a eu la radio et durant tout ce laps de temps, voilà, j'ai entretenu une passion pour la photo, pour l'écriture. Plus tard, il y a eu la radio, mais en fait, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'au-delà des notes qu'il y avait sur un bulletin, moi j'avais une force que les autres n'avaient pas. Je disais ok, tout ma zama, sbortoni bel notes, sbortoni bel bac et tout. Ça, j'ai quelque chose. Tu peux pas m'évaluer. Tu peux m'évaluer, mais j'ai quelque chose en moi que c'est-à-dire non seulement maintenant je vais avoir les notes plus les passions. Et en fait après ça m'a vacciné, si tu veux. Alors ben je ne connais que ça m'a vacciné contre l'échec, non. À l'époque je me disais ça, mais en vrai aujourd'hui je suis reconnaissante parce que si je n'avais pas passé le bac trois fois, crois-moi, tu ne serais pas en train d'enregistrer ce podcast avec moi. Je ne serais pas Wardia Ousmer que tu es en train de suivre sur les réseaux. Je ne serais peut-être pas derrière Éclosion avec Célia. Il y a plein de choses qui ne seraient pas passées s'il n'y avait pas eu cet échec. Donc aujourd'hui, cet échec-là, c'est le départ de ma réussite, en fait. C'est comme ça que je le vis. Au contraire, ça a été très difficile. Et même, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir parler facilement de ce passage à le bac. Souvent, j'ai les yeux je commence à avoir les larmes aux yeux quand j'en parle parce que c'était vraiment traumatisant. Trois fois, tu commences, surtout jeune, tu dis mais je suis nulle, je
suis surtout que tu es adolescente, ma mère a les hormones, toutes les choses tout jag.
Voilà. Et maintenant, je suis fière. Et au contraire, je leur dis aux gens, je leur dis, vous savez, j'ai passé mon bac trois fois. Alors qu'Anna, on prend pour la fille première de la classe.
Qui est arrêté en français? Donc, il y a un niveau élevé en français, le Mzaïr. Alors, pour quelqu'un qui a eu le bac trois fois, comment ça s'est fait?
Eh bien, très bonne question. Déjà, la première chose, c'est que les notes ne déterminent pas qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que, tu vois, c'est pas parce que j'ai passé le bac que j'ai pas le niveau, ou là que je suis nulle, ou là que je suis pas intelligente, ou là la preuve, encore une fois, je serais pas là où je serais pas là en train de te parler. Ensuite, Kain Bizaf n'est justement les hagro le niveau les andana fdzaïr. Quand je suis partie, bien sûr, j'ai stressé parce que. J'ai été acceptée. Anna, j'avais fait 4 ans hein, et j'ai été acceptée directement en M2. En plus, dans un institut d'administration des entreprises, quand j'ai postulé, à vrai dire, je ne connaissais pas trop leur réputation. Mais en vrai, ils sont sélectifs. Donc, je me suis dit, OK, j'ai été retenue, c'est cool. Sachant qu'Anna, j'ai eu mes années de fac sans rattrapage, sans synthèse, sans rien. C'était toujours du premier coup. Et j'étais stressée à l'idée de ne pas avoir le niveau et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que la base que j'avais était véritablement solide, que ça m'a permis de gérer les choses bien et d'avoir mon master au bout du compte. Après, oui, je ne te dis pas que c'est kiff-kiff, c'est pas kiff-kiff, parce que déjà, on t'apprend la méthodologie, il y a plus de structure, tu as un accompagnement qui est différent. J'étais dans une classe où il y avait 5 personnes. Il y avait 2 Français, une Russe et un Burkinabé, genre le cours privé. Oui, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. La spécialité d'ailleurs marketing, il y avait une dizaine de personnes, mais nous, on était 5. Donc déjà, pour moi, ça a été un privilège de faire cette école-là. Mais sinon, voilà, la base que vous avez ici. Alors, je sais, il y a des grèves, il n'y a pas le niveau qu'il faut, des fois, le plan de formation n'évolue pas, les métiers d'aujourd'hui, etc. Mais moi, le conseil que je donne, si vous êtes en première année, deuxième année ou là, n'abandonnez pas. Faites au moins la licence, au moins le L3 et commencez à postuler. Il y a des gens qui partent après le bac, surtout leader ou des lycées internationaux et tout. Mais partir, pour moi, abandonner ses études pour redémarrer là-bas, c'est une très mauvaise idée. Au contraire, le fait d'être en université, il y a déjà... Tu bdais toi le fif le rythme de l'université, tu commences à découvrir les codes. Quitte le haqal tma, tu commences à structurer et tu prends ce qu'il y a à apprendre. Mais c'est une base solide. Il faut pas sous-estimer ce qu'on nous apprend ici. Et voilà. D'ailleurs, mon frère, il est ingénieur informatique. Il y a eu beaucoup de manques dans son cursus parce qu'ils n'avaient pas le côté pratique. Par exemple, le Hua, sa promotion, ils n'avaient jamais touché de Mac ou là, tu vois. Donc, c'est un détail parmi beaucoup de choses que soit est censé toucher un informaticien. Ouchnou, ils avaient une force. Les informaticiens qui arrivent au Tema, ils explosent. Ouais, ils ont tellement bouffé de la théorie. Ils ont tellement imaginé des solutions. Même les chercheurs ou là, les médecins, les médecins, ils arrivent quand même, il faut le dire, ils arrivent à soigner même quand ils n'ont pas les moyens. Et ils font les choses bien, ils font leur boulot. Et bien, qui est le Tema? Tu leur donnes les moyens. Tema, la solution, avant, sans les moyens, ils te la trouvaient en une heure. Tu leur donnes les moyens en 15 minutes, si ils différent.
Nous, on a la visualisation.
Voilà, mais c'est ça.
Dans le barbassin, visualiser.
Exactement, mais c'est important. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois les manques qu'on perçoit dans notre quotidien ou là dans notre environnement, on se rend pas compte que c'est là d'où on peut tirer le plus de force. Les Algériens, ils explosent à l'étranger justement parce qu'on leur donne les moyens à la hauteur de leur intelligence et de leur capacité. Donc voilà, ne vous sous-estimez pas. Ou je nous travaille, c'est le travail qui fait la différence.
Oui,
toujours. On n'a rien sans rien. Ah oui.
En parlant de travail, tu t'adresses souvent à LinkedIn.
Oui. Non, voilà, je ne suis pas une influenceuse LinkedIn.
Existaient les influenceuses LinkedIn.
je vais peut-être devenir la première influenceuse LinkedIn algérienne. Oui, peut-être. Alors, justement, ça revient à la question du réseau. Tu sais que mon compte LinkedIn, j'ai dû le créer en 2008-2009, qui traite la fac. Donc déjà, on est en 2022, je te laisse faire le calcul. Parce qu'en fait, j'ai grandi avec la rengaine que me chantaient mes parents. Ma fille, il faut entretenir tes relations. Bon, surtout les amitiés et tout ça. Mais en vrai, ça s'applique aux professionnels aussi. Et on m'a toujours appris l'importance du réseau, l'importance de rencontrer du monde, etc. Et encore une fois, tu vois, la phrase Hedi, elle est tellement ancrée dans ma tête que j'ai commencé à y travailler très tôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du réseau.
C'est parce une phrase que très, très importante.
Voilà. Et le fait de l'avoir tellement entendue, elle s'est ancrée, férincée. Petit à petit, au bas de LinkedIn, j'ai commencé je vais voir ce que font les gens, ce qui est publié. Je commençais à suivre des entreprises, des personnalités, etc. Après, j'ai commencé à être un petit peu plus active, c'est-à-dire que j'ai commencé à partager, mais après, je n'avais pas vraiment de légitimité. C'est-à-dire, en tant qu'étudiant, je ne savais pas trop quoi faire. Rien ne t'empêche de publier un article, de donner un avis ou là, de dire juste que tu as trouvé cet article intéressant ou classe, tu vois. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à être plus active jusqu'à ce que j'entre dans le monde pro. Je me suis rendu compte. On parle beaucoup, on se plaint beaucoup, surtout en tant qu'Algériens, on se plaint beaucoup de la médiocrité, niveau habat, blablabla. Mais en vrai, s'il y a autant de médiocrité, c'est parce que j'estime que les gens qui ont des choses intéressantes à dire se taisent. C'est-à-dire que nous, en tant que personnes, j'ai pas envie de dire je, parce que c'est assez prétentieux, mais si j'ai quelque chose d'intéressant ou une scout, et que je laisse quelqu'un qui n'a peut-être pas mon expérience, qui n'a peut-être pas mon niveau, parler à ma place. Je ne peux pas me plaindre de la médiocrité, là, n'est-ce pas trop place.
D'où ça vient, Fibalk?
Il y a une expression, je ne sais plus comment elle est formulée, en gros, les idiots sont toujours pleins d'assurance et les gens intelligents sont pleins de doutes. Enfin, c'est formulé un peu en vrac, mais c'est l'idée générale. En fait, il y a deux choses. Généralement, les gens qui ont des choses intéressantes à dire, qui sont compétents, etc., ils n'ont pas le temps de se montrer. C'est-à-dire que... j'irai pas jusque-là, mais ils ne travaillent pas pour se faire voir. Ils travaillent parce qu'ils veulent bosser, ils ont des objectifs, tu vois. Mais après, tu as des gens, et ça existe partout. Tu as plein de gens qui sont des coquilles vides et qui prennent la parole. Et alors que des fois, tu as refait home, mais tu sais que ce n'est pas des experts. Ou là, ils viennent se positionner en tant qu'experts. Mais justement, il y a une phrase que j'utilise aussi beaucoup et que je dis aux gens. c'est que la nature a horreur du vide. Redoua, tu as un jardin. Tu as envie de faire un potager. Si tu l'entretiens, que tu plantes des graines, que tu arroses tout ça, ouais, qu'est-ce qui va pousser ? Bah, tu auras ton verger, tu vas avoir tes légumes, tes fleurs, etc. Mais si tu l'abandonnes, tu as de l'herbe qui va pousser, des mauvaises herbes ou la machine. Voilà, ou la mauvaise ou la machine mauvaise herbe, peu importe. Mais ça ressemblera à rien, ça sera un terrain délaissé. Et c'est la même chose pour le quotidien t'ana. Là, je pars du principe que j'ai une place et je ne la cède pas. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais je refuse que quelqu'un prenne la parole à ma place. Et LinkedIn m'a servi de plateforme pour véhiculer ça. À un moment donné, et puis petit à petit, j'ai commencé quand même à me construire une légitimité en tant que professionnelle. Donc, j'ai commencé à prendre la parole, à donner mon avis sur des sujets, à poser des questions pour enclencher un débat. Il y avait des gens qui s'intéressaient à ce que je disais, qui me disaient qu'ils me trouvaient pertinente et tout ça. Bien sûr, c'est encourageant. Mais voilà, Anna, je pars du principe que chacun de nous doit occuper sa place pleinement. Et j'illustre ça par une image. Tu es en train de, sur l'autoroute ou là, en ville ou peu importe, tu es en train de conduire. Il y a un ralentissement. T'es une femme qui conduit bien, tu respectes le code de la route, donc forcément la voiture qui est devant, t'es pas en train de la coller, tu laisses ce qu'on appelle une distance de sécurité. Au cas où il freine, tu vas pas lui rentrer dedans. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? T'as toujours un génie qui est à droite, qui va venir remplir avec le vide, parce qu'il se dit qu'il y a une place à bin hatonobel à neutral. Mais en vrai, c'est une distance de sécurité. Et en fait, c'est la même chose. Si tu laisses un vide, ne t'étonne pas que quelqu'un vienne le remplir.
Je pense que tu as raison. Tu as traité le vide. Quand tu as un genre de prétention, je trouve. Et je trouve qu'on sous-estime beaucoup les gens jazaïriens. Et je trouve qu'on ne comprend pas. Mais ils sont fous.
Non, et en plus, je vais aller beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, c'est des phrases que... Je pense que les gens, à un moment donné, vont dire « Wardia, tu répètes tout le temps les mêmes phrases. » Mais pour moi, c'est des phrases clés. Et là, je pars du principe que je le fais par... C'est limite une responsabilité. Je sème des graines. Zama Doka, Anna, par exemple, tu le vois, ce que je fais sur les réseaux TI. Je partage des choses. J'essaye de partager des choses qui me semblent être intéressantes ou constructives pour les gens qui me suivent. Je partage, je discute avec Anna, c'est tout. Après, il y a des gens peut-être qui ne sont pas d'accord, il y a des gens belles qui s'en fichent, il y a des gens qui vont venir lire en se disant « je m'en fous ». Mais après, Anna, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai semé des graines et ça va pousser un jour. Tu ne peux pas lutter contre ça parce qu'une pensée, une fois que tu l'as partagée, dans l'esprit de quelqu'un, capable de s'allouer une situation, la pensée a dit qu'elle va réapparaître et ça va le faire réfléchir. Donc en plus, il faut se poser la bonne question. Quand tu partages un truc ou là quand tu essaies d'expliquer un truc, tu le fais pourquoi ? Est-ce que tu veux juste être évalué en mode oui, il est super intéressant, ou là tu le fais justement parce que tu trouves que c'est une responsabilité, ou parce que tu as envie d'avoir de l'impact sur les gens ou de semer des graines ? Là, je le fais. Je me dis, c'est une responsabilité de dire les choses, d'expliquer aux gens, de les sensibiliser, de transmettre, de partager mon expérience si ça peut servir à quelqu'un. Après, libre aux gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais un an, plastique, je l'ai occupé. Parce qu'après, si on se tait tous, il faut... justement, tellement ce qu'il y a, ou le bled qui fait choula. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, ça, c'est une responsabilité. Vous avez quelque chose d'intéressant à dire ? Dites-le. Tout simplement.
Non, t'as tout à fait raison.
Et on est tous... je pars du principe, on est tous l'influenceur de quelqu'un. Si moi, admettons, j'ai deux petits voisins, ils m'observent, ils savent qu'est-ce que je fais dans la vie, ils voient à peu près comment je vis, etc. Tu donnes, il y a un truc qu'on appelle le devoir d'exemplarité. On l'a, après à nous de voir si on veut l'assumer pleinement ou là. Mais Anna, je l'assume pleinement parce que il faut pas, c'est comme les parents. Les enfants ils leur apprennent des trucs, mais en vrai les enfants ils observent, qu'est-ce qu'ils font, ils miment ce que font les parents. Donc quand t'es un parent, tu dois donner l'exemple à ton enfant, justement il va t'imiter. C'est la même chose pour le reste de la société, les relations, peu importe, tu donnes un exemple.
La question je n'ai ma contribution au dégoût général. Et dans chef de la semaine dégoûtienne, on voit là comment j'ai contribué fait le dégoût. Est-ce que حرقت كش واحد بالهدر اسكو بليسيت واسكو لحقت الرطار وما عرفش نمشي زوم وهبلت ورديه باغ
نو اي سي اي سي مي جوستمون سي اون بون كاستيون كو تو بوز اي جوست جو تروف سوبر امبورطون كو لي جون بويس ديفلوبي سيت كاباسيتي à se poser les bonnes questions. Et la dernière fois d'ailleurs sur les réseaux, j'avais parlé de l'importance de l'écoute. Et l'écoute, elle est valable, elle est précieuse que pour la communication, mais aussi pour tout le reste. Parce qu'au final, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on écoute les autres. Et il faut pas être tout le temps dans. C'est vrai que maintenant, en tant qu'humain, on réagit au quart de tour, on va tout de suite juger une situation, etc. Mais justement. Après, il faut se poser la question. Bon, Tia, tu as dit qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer au dégoût général, mais il faut se poser aussi la question inverse, qui est beaucoup plus constructive. Qu'est-ce que je fais pour contribuer au bien-être ou la construction d'autres personnes, tu vois.
Et
voilà. Et moi, je pars du principe que, pour moi, la réussite, c'est pas avoir une maison, des voitures et tout ça. La réussite, déjà, c'est la sérénité d'être à la bonne place. De faire des choses qui nous passionnent, mais surtout de savoir que les gens autour de toi grandissent grâce à toi. Anna, pour moi, c'est ça le plus beau, le pouvoir de transmettre, le pouvoir de dire que... Anna, je me rappelle la première fois qu'une copine m'a dit « t'es une femme inspirante », ça m'a limite bouleversée, parce que pour moi, c'était le compliment du siècle. Quelqu'un d'inspirant, t'imagine, on te place en tant que référence, en quelque sorte, tu vois. Et le fait que ça soit une amie qui me dit ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc à nous de prendre à cœur ce devoir d'exemplarité et aussi d'être la personne des gens qu'on aimerait voir autour de nous. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre toujours que les gens soient parfaits, qu'ils se comportent bien. Déjà, maintenant, il faut qu'on se demande, est-ce qu'on se comporte bien? Qu'est-ce qu'on fait de bien? D'ailleurs, il y a une phrase qui dit que, une expression qui dit que quand tu te regardes dans la glace et que tu as envie de briser la glace, ce n'est pas la glace qu'il faut changer, mais toi d'abord qu'il faut changer. Voilà.
C'est à méditer.
Ouais.
Quel est tes devoirs d'exemplarité? Est-ce que tu as la responsabilité tannée? Est-ce que tu as une pression plus forte en tant que femme? Je te connais une bonne référence pour les jeunes filles. Ou là, je suis belle, que le mohem, les jeunes gars, kiff.
Alors non, pas spécialement. Bon, Anna, j'ai eu une éducation assez traditionnelle, c'est-à-dire que j'ai les codes qui font que je sais comment me tenir, si tu veux, en société, etc. Après, je suis pas, je suis pas une frondeuse. Anna, je suis pas du genre autant. En fait, comment t'expliquer? Autant je suis quelqu'un de très respectueuse des règles et tout ça. Autant, laisse-moi lire mon espace de liberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à m'enfermer, je peux péter un câble. Mais, précisément, en tant que femme, je pense que nous, en tant qu'Algériennes, on l'a dès la naissance.
Désolée, je vais reformuler ma question.
Oui.
Machi, est-ce que tu ressens la pression? Est-ce que tu ressens la responsabilité d'être un bon exemple pour les jeunes filles? Le côté de empowering women. Pour toi, il y a qui connaît un jeune, je m'en fous si c'est des femmes ou des jeunes filles, jeunes garçons.
Non, mais en fait, ça c'est clair. Anna, pour moi, ça fait partie de mon ADN. Anna, pour moi, la personne qui doit interagir elle doit repartir avec un plus. Elle ne peut pas repartir avec un moins. Et et ça revient justement, ça rejoint cette histoire de devoir d'exemplarité. On a une responsabilité envers... et en fait, c'est même pas que les plus jeunes, parce que des fois, même les gens qui sont un peu plus âgés que toi, je vais pas te dire la génération de nos parents, mais un qui te dépasse de quelques années, il peut t'observer et se dire, ah oui, cette fille, cette femme, elle a fait ceci ou cela, et je trouve ça exceptionnel, ou je trouve ça bien, etc. Donc, je me connais que c'est une pression, non. Parce que je le fais, si tu veux, je le fais naturellement, je le fais... comment t'expliquer? Je
sais
pas
intentionnel, j'ai tout.
Parce qu'en fait, pour moi, ça fait partie de mon ADN et ça fait partie de ma volonté de vouloir transmettre et de vouloir partager mon expérience, de vouloir sensibiliser et d'inspirer les gens. Donc, je me trouve que c'est une pression. Non, je suis pas stressée à l'idée de dire « Ah, Lyon m'a dit tout à l'eau » ou là, tu vois. je le fais, je me dis si les gens se sentent bien autour de moi et qu'ils apprennent des choses et qu'ils... Et que j'arrive à les faire réfléchir, parce que l'objectif n'est pas juste de changer les habitudes des gens, parce que je suis pas leur mère, je suis pas eux. Mais l'idée, c'est de leur donner des pistes et de... Ben, c'est comme l'histoire du bac. Tu vois, je suis là, je le dis donc aux gens. J'ai passé 3 fois le bac, mais aujourd'hui, je suis la personne que je veux être. Donc, on s'en fout que vous ayez passé votre bac 5 fois ou que vous ne l'ayez jamais eu. Parce que c'est vous qui déterminez ce que vous voulez faire de votre vie. Donc non, pas de pression en particulier. Je ne vise pas les femmes plus que les hommes. Alors oui, si, enfin si, quand même un petit peu, on a ce penchant vers les femmes parce qu'on sait que notre société est un peu compliquée, donc on a envie de que les femmes se surpassent un petit peu plus. Mais voilà. D'ailleurs, même sur mon compte Instagram, par exemple. Tu l'as vu tout à l'heure, j'ai 32% d'hommes et le reste gars, c'est des femmes. Mais voilà. Moi, c'est une responsabilité qui est, on va dire, innée. Pour moi, elle est en moi. Genre, ma cache, ta pression, là. C'est une responsabilité. Comme toi, en tant que citoyenne, tu dois te comporter bien. C'est une responsabilité qui est là. Genre, ma cache, c'est pas un truc que tu acceptes ou que tu refuses. Tu as la responsabilité d'être un citoyen exemplaire. Voilà.
Est-ce que tu imagines un jour, tu as le podcast de Ronté ou Célia, ou ça ne serait pas exclusivement pour les femmes?
Alors,
ça vous intéresse pas?
Non, c'est pas ça. Je pense que pour le moment, alors à l'état où ça en est, mais elle, on doit encore faire le tour de beaucoup de questions et de aller rencontrer beaucoup d'autres femmes. Peut-être qu'un jour le podcast va évoluer vers autre chose, je ne sais pas. Mais à 9 et racine, je sais que dans mon parcours et dans les mois et années à venir, je ferai de mon mieux pour donner la parole à plus de personnes et à être justement, à donner du sens et à structurer cette envie de transmettre et de partager les expériences, parce que pour moi, c'est les deux choses les plus fondamentales dans la vie. C'est ce qui aide les gens à aller de l'avant. Parce que lire des bouquins, c'est très bien. Voir des documentaires, tout ça, se nourrir, se cultiver, c'est très bien. Mais le partage de l'expérience humaine, elle est très importante. Donc, j'ai des petites idées dans ce sens-là. J'espère que ça va donner quelque chose. Et voilà, le podcast...
Oui, suspense.
Mais voilà, éclosion, oui, qui sait? On ne sait pas. Pour le moment, on se concentre sur... on n'existe que depuis 2019, mais ça peut évoluer à tout moment.
Tu as le podcast ou la gars qui te connaît avec une chaîne en ligne, les te connaît avec une niche qui met relou.
Oui, complètement.
Alors vaut mieux que je réduire bzaf, ماشي parce que mahbina chna sma'a lwahed okhrin ou on veut pas traiter d'autres sujets. Mais
c'est ça la stratégie, les règles du jeu. Et c'est ça, exactement. Parce qu'après, tu perds en audience, tu perds en...
Ça se dissout, n'importe
voilà.
quoi.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on crée des lignes éditoriales. C'est-à-dire que la ligne éditoriale, c'est ce qui te permet de rester cohérent.
En tout cas, les femmes inspirantes, Anna Adjibtineu, j'adore le podcast Takom.
Merci beaucoup,
et
merci
j'ai
beaucoup.
Hâte tout Léo. si tu pouvais changer Hajaf Zer... Ou شنو هي هادي ونخليك تروح
او لا لا non mais
ça واحد وخلاص
voilà c'est 3 heures ماشي 1 heure si je devais changer quelque chose في الجزائر les mentalités je pense que c'est vraiment le gros point de départ parce que une nation OK elle se construit elle se construit avec un gouvernement mais la nation se construit avec le gouvernement et ses citoyens. Tu peux pas éternellement compter sur le gouvernement pour tout faire. Les autres pays, c'est vrai, il y a des lois, il y a tout ce qu'il faut. Mais les citoyens derrière, ils suivent, ils font des efforts. Les mentalités, que ce soit en société, que ce soit dans notre comportement, on n'est pas impliqué en fait. Tout le monde se laisse aller. C'est comme si on parle de déchets ou là. يجي واحد يرمي ان تروك في الارض تقولي له علاش رميته هنا وبعد يقول لك بصح كانت موسخه ديجا مي ان فيت ا لا باز افون كي لو تا دو ديشي يا في ريان سي تي بروبر سي جوستمون اون بيرسون رمات ومن بعد لوتر سي دي دو توت فاصون سي سال ايا نرمي انا اي انسي دو سويت اي سي كوم سا كون ا كري ان غرو تا دو ديشي tu vois ça c'est bon
qui te dit les mentalités tu veux dire l'aspect défaitiste à l'algérien.
Oui, l'aspect défaitiste, c'est le fait de se laisser aller à la fatalité. Ce pays, il est fichu, on ne peut rien faire. Non. D'ailleurs, il y a la fameuse citation de Mandela qui dit avant de vous demander ce que vous avez fait pour ce que votre pays a fait pour vous, demandez-vous ce que vous avez fait pour votre pays. Ou je la pousse encore un petit peu plus loin en disant demandez-vous ce que vous avez fait pour vous, parce que en vrai, on est un maillon dans une chaîne. Donc déjà, non, à la base, on doit être responsable déjà de notre propre vie. En tant que Wardia, je m'occupe de ma vie, mais en même temps, je fais en sorte que ma vie ait un impact positif sur la société et que je m'intègre dans une société. Si tout le monde faisait ça, si tout le monde se responsabilisait par rapport à sa position de citoyen, ça irait beaucoup mieux. On ne sait plus cohabiter. Et ça, c'est dommage. Et le mot que j'ai choisi, c'est mentalité, parce que les mentalités qui ont fait bzaf, que ce soit par rapport à la situation des femmes, que ce soit par rapport à l'écologie, à l'environnement, à l'amour du pays. Aujourd'hui, l'Algérie, je t'aime moi non plus. Qui est Rojo ?
Je pense que...
Ah, l'Algérie, le drapeau, tout ça.
Malgré tout, bled in brick.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, non. Si tu... Pourquoi tu veux aimer ton pays de loin alors que tu peux faire des choses ? Non, genre la preuve, elle est concrète. Je sais pas, moi j'ai déjà croisé des gens qui disent qu'on a un plastique en Allemagne, on vit, etc. Non, pourquoi tu ne te comportes pas comme un Allemand ici ? On va dire que c'est un Allemand. Mais ici, vous vous comportez mal. Parce que vous allez dans un autre pays, d'ailleurs, nous en Kabyle, on dit... En vrai, si je la traduis littéralement, ça ne veut rien dire, mais ça, en gros, tu n'es pas jalouse. Ce n'est pas une jalousie toxique, mais dans le sens très rare quand même. Quand tu vois d'autres pays, très rare les autres pays, le tourisme. Voilà, nous rarons à la bladna, mais de manière très sélective. Mais en vrai, sur le terrain, on
lâche.
Voilà. Donc voilà, pour moi, les mentalités, c'est fondamental, parce que les mentalités, c'est l'éducation, c'est... Voilà. J'aimerais qu'on arrête d'être toujours défaitiste. Rire t'lai le bus, wahdi shkilek. Rire t'lai taxi, wahdi shkilek. T'rohi عند le commerce. Gaïchko. Et si on arrêtait de se plaindre un petit peu et qu'on se mette au boulot ? Je sais que c'est... Les gens vont peut-être penser que l'on a des privilégiés ou dit trop le matchkouj. Mais ce qu'on oublie, c'est que shka hada, il a un impact sur notre mental et sur toutes nos cellules. Donc, pensons un petit peu positif. Essayons de faire notre mieux. Je sais que c'est compliqué. Surtout en ce moment, on est en pleine crise. Il y a des gens qui se retrouvent sans travail, qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Mais c'est comme en entrepreneuriat. Le mindset est très important. Et si on avait... Je crois beaucoup à la force du collectif. Si on se réchouillait les coudes, qu'on commençait à vivre dans une société avec du vivre ensemble, ça irait beaucoup mieux.
Je pense aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution, Fle, change mental et mentalité.
Merci beaucoup. Bah, j'espère que je contribue.
tu le fais à 100%. Déham Nandi.
D'accord, je te remercie, je te crois.
Merci beaucoup pour tes efforts et pour ta responsabilité. Ou merci l'IGT le podcast ou Hakite Nashuya.
Ben, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité et je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec toi.
Inch'Allah,
avec plaisir. Il y a d'autres thématiques à traiter.
Ah oui, لازم بالك نديرو لايف ثاني.
Ça serait bien. Avec plaisir, je suis in.
Ah ben super. Et merci beaucoup, bonne soirée. غدوة ماشي العيد.
Oui.
صحة عيدك غير غدوة.
Merci beaucoup. صحة عيدك à toi aussi.
Bisous, صحة عيدكم.
Bisous, bonne soirée. Au revoir.